libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site cause-commune.fm. C'est donc parti pour Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April, et d'autres personnes de l'équipe interviendront dans l'émission et nous allons aussi trois invités. Nous allons faire bien sûr un tour de table de présentation avant d'aborder les sujets. Alors c'est notre première émission en direct, la précédente était enregistrée donc dans les conditions du direct, donc nous comptons une fois de plus sur votre indulgence et bienveillance. Alors je vous rappelle le site web de l'April, april.org, april.org, et vous y trouvez d'ores et déjà une page consacrée à l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Alors évidemment, cette page sera mise à jour après l'émission s'il manque des éléments. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Et nous vous souhaitons une excellente écoute. On va commencer par un petit tour de table rapide des personnes présentes en studio. Alors déjà, bonjour Léa Chamboncel.
Bonjour.
Marc Ress.
Bonjour.
Étienne Gonu.
Bonjour.
Et nous allons avoir bientôt Mario Dill par téléphone d'Italie, parce que nous allons faire une petite interview. Et nous aurons ensuite la chance d'avoir Anne-Catherine Laurin en direct du Parlement européen, donc de Bruxelles. Anne-Catherine qui travaille pour le groupe des Verts européens. Alors je rappelle l'objectif de l'émission Libre à vous de l'April, qui est donc principalement animée par l'équipe salariée de l'April, mais aussi par des membres bénévoles. Cette émission se veut une émission d'explication et d'échange concernant les dossiers politiques et juridiques que nous traitons, autour de la liberté informatique et bien sûr en priorité le logiciel libre. Nous espérons donner ainsi à chacune et chacun de manière simple et accessible les clés pour comprendre les enjeux mais aussi proposer des moyens d'action. Donc aujourd'hui on va vous donner des clés de compréhension sur la directive droit d'auteur et aussi quelques moyens d'agir. Et une partie de l'émission est également consacrée à nos dossiers de type sensibilisation. Donc aujourd'hui par exemple ce sera une interview sur le groupe de travail transcription. Donc tels sont les objectifs de cette émission qui est une émission mensuelle diffusée en direct chaque premier mardi du mois de 15h30 à 17h. Et je vous rappelle le site web de l'April, april.org, sur lequel vous pouvez trouver une page avec toutes les références. Donc maintenant on va passer au programme du jour. Aujourd'hui notre dossier principal est un dossier assez important. D'ici une quinzaine de minutes, alors j'en profite pour saluer Olivier Grieco qui est en régie. Donc d'ici une quinzaine de minutes, nous allons aborder la révision de la directive sur le droit d'auteur et principalement son article 13 et aussi son article 11 qui pourrait affecter notamment les plateformes de développement logiciel, mais pas que, en fait, qui affecte globalement l'Internet libre et ouvert tel que nous pouvons encore le connaître. Avant cela, nous allons vous proposer un entretien avec Marie-Odile Morandi qui va présenter le groupe de travail transcription de l'April. Mais juste avant ça, je vais vous faire trois petites informations. Alors dans la première émission, nous avions discuté déjà avec Marc Ress de Next Impact, dossier Open Bar Microsoft Défense. On avait cité un documentaire fait par la télévision allemande, qui a été disponible uniquement en allemand. Mais aujourd'hui, ce documentaire est disponible en anglais. Donc vous retrouvez le référent sur le site de l'April, et on espère que bientôt, cette émission sera disponible évidemment en français. Vous y retrouvez notamment des interviews de la sénatrice Joëlle Garriaud-Mellam et de mon collègue Étienne Gonu. Deuxième petite information, cette émission est consacrée au logiciel libre, mais ce n'est pas la première émission de radio qui existe sur le logiciel libre, donc je voulais saluer l'Écho des Gnous, qui est une émission consacrée au logiciel libre et à la culture libriste, diffusée depuis 2010, chaque dimanche soir de 19h à 20h sur Radio Campus à Lille. Le podcast est disponible chaque semaine, donc là pareil, les références vous les retrouvez sur le site de l'April. Et pour finir, un podcast qui s'appelle Décrypte Actualité, qui est fait par des membres de l'April. Alors c'est un format court, une quinzaine de minutes. Chaque lundi, 3 à 4 personnes se réunissent pour en fait essayer de commenter de façon simple et accessible au grand public un sujet d'actualité. Je crois que le dernier sujet, c'est le rachat de Microsoft, de GitHub par Microsoft. Donc le podcast est généralement disponible le mardi matin. Pareil, sur le site de l'April, vous allez voir, vous avez la référence, c'est Décrypte Actualité. C'est fait notamment par Luc Fievet, Emmanuel Charpentier et Nicolas Vino. Bon, après ces petites annonces, on va passer au premier sujet, l'interview de Marie-Odile, qui normalement est en direct depuis l'Italie. Marie-Odile, est-ce que tu nous entends ?
Oui, je vous entends parfaitement. Est-ce que vous m'entendez ?
Alors, on t'entend parfaitement. Donc déjà, bonjour Marie-Odile, de prendre de ton temps pour répondre à quelques questions. Pourrais-tu déjà te présenter en quelques mots ton parcours et comment tu as découvert l'April ?
Bonjour Frédéric, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de l'émission Libre à vous. Et sur Radio Cause Commune. Je peux me présenter. Donc, je suis Marie-Odile Morandi. J'ai enseigné pendant de nombreuses années au lycée Stendhal de Milan, qui est un des lycées français à l'étranger. J'enseignais la technologie au niveau du collège. Actuellement, je suis à la retraite et pour ne pas laisser mes neurones en jachère, je participe activement au groupe transcription de l'April. J'ai découvert l'association en 2009-2010 en flirtant sur le réseau. Bien entendu, ce que j'ai lu m'a plu. J'ai voulu apporter ma pierre, participer, m'impliquer. Et mon choix s'est porté vers le groupe transcription puisque c'est là que je me sentais le plus à l'aise pour agir avec l'April.
Alors, merci Marie-Odile pour cette présentation. Donc, tu vas nous permettre de faire découvrir ce groupe de transcription qui semble être effectivement animer ta passion. Depuis quand ce groupe existe-t-il ? Et puis, quels sont les objectifs de ce groupe transcription ?
Alors, en faisant des recherches, j'ai trouvé que le groupe existe depuis 2006. Personnellement, j'avais commencé à participer de façon ponctuelle depuis 2011, puis de façon de plus en plus intensive, bien entendu, la retraite arrivant. Et en 2015, j'ai accepté d'animer ce groupe. Actuellement, on compte à peu près 80 inscrits sur la liste de discussion dédiée. Alors, pourquoi un groupe transcription à l'April ? Personnellement, j'adhère à l'idée que sur le web, désormais, on trouve de nombreuses conférences, de nombreuses émissions qui traitent de logiciels libres, de liberté informatique en général. Et j'ai toujours pensé qu'il était vraiment dommage de n'y avoir accès que sous la forme audio ou vidéo. Donc la mission que s'est fixée le groupe transcription, c'est de repérer sur le web justement ces enregistrements, ces vidéos de conférences, d'interviews qui traitent évidemment des thèmes chers à l'April, afin de mettre noir sur blanc, d'écrire tout ce qui se dit, tout ce qu'on entend. On obtient un texte de cet enregistrement. On obtient un fichier texte et à partir de ce fichier texte, on crée un fichier HTML qui est ensuite publié sur le site de l'April.
Alors d'accord, c'est une bonne effectivement présentation, on comprend bien l'objectif de ce groupe. Je crois me souvenir qu'il y a trois mots-clés dans le groupe de travail, c'est indexation, réutilisation et accessibilité. Est-ce que tu peux entrer un peu plus en détail là-dessus, s'il te plaît ?
Tout à fait, ce sont les trois mots-clés qui sont utilisés dans les groupes transcription. Alors, ce sont les finalités du groupe. Le premier mot-clé, c'est le mot indexation. Bon, je pense que les choses s'améliorent en utilisant des moteurs de recherche, mais il reste quand même de temps en temps difficile de retrouver un enregistrement, une vidéo. On se souvient que ça existe, on a des difficultés à retrouver, alors que le texte, grâce aux mots-clés, sera plus facilement repéré, indexé par les moteurs de recherche. Donc, il faut retenir ce premier mot, indexation. Le deuxième mot à retenir, c'est le mot réutilisation. En fait, les transcriptions sont publiées sous une licence qui est la licence verbatim. Verbatim, ça signifie que les propos des conférenciers et des conférencières sont reportés très fidèlement. Donc, grâce à ce travail de transcription fidèle, en cas de nécessité, on pourra retrouver exactement les propos qui ont été tenus lors de cette conférence par les intervenants et les intervenantes, et on pourra les réutiliser sans trahir leurs pensées, et bien entendu en citant la source exacte, puisque c'est ce qu'on nous demande, de citer les sources exactes dès qu'on avance quelque chose. Donc le deuxième mot à retenir, c'est le mot « réutilisation ». Et puis, bien entendu, le troisième mot qui est peut-être le plus important, c'est le mot accessibilité. Une cible importante de nos transcriptions, ce sont les personnes handicapées et porteuses de handicap. Et des observateurs affirment que chacun d'entre nous, nous ferons partie un jour ou l'autre de cette catégorie de personnes. Je pense en particulier aux personnes malentendantes, aux personnes sourdes. Bon, il y a une autre chose aussi quand on réalise une transcription, c'est qu'on essaye, en plus de reporter les paroles des intervenants, on essaye d'indiquer avec, entre parenthèses, entre guillemets, ce qui se passe, soit ce qu'on entend, soit ce qu'on voit en regardant la vidéo. Par exemple, une personne qui élève le ton. Par exemple, une personne, ça m'est arrivé il y a quelque temps, une personne qui imite la voix d'une autre personne. Au moment où, quand on regarde la vidéo, on peut voir les mimiques des personnes, leurs gestuels. Et tout cela, et on essaye de le reporter pour renforcer les propos, pour bien comprendre les idées que les orateurs veulent transmettre. Donc c'est un plus qui est offert par la transcription. Et là, je pense particulièrement aux personnes non-voyantes ou aux personnes aveugles. Donc effectivement, accessibilité, réutilisation et indexation, ce sont les trois maîtres mots du groupe transcription. Mais on a aussi des retours, par exemple de personnes qui ont un temps très restreint à disponible pour regarder des vidéos, qui savent qu'une vidéo est disponible sur le réseau, mais qui n'ont pas le temps de la regarder. Alors on a eu des retours de personnes qui nous disent « c'est bien les transcriptions, parce que comme ça, je lis en lecture rapide, si ça m'intéresse, j'approfondis, si ça ne m'intéresse pas, si je connais le sujet, ben, je passe à autre chose. » Donc c'est un plus aussi pour les personnes, disons, dans le plein de leurs capacités. Alors, je vais rajouter quelque chose qui est peut-être quelque chose de personnel, mais toutes ces finalités que je viens d'énoncer concernent les autres, si on peut dire. Mais je pense que dans ma vie, j'ai jamais fait des choses qui ne me plaisaient pas. Et si je continue à transcrire, c'est parce que j'éprouve aussi une certaine satisfaction. Quand on commence une nouvelle transcription, on a une feuille blanche et puis petit à petit, on commence à la remplir, on s'imprègne de la pensée des orateurs, on approfondit. Bon, c'est en quelque sorte une communication avec les personnes qui interviennent ou l'orateur, si c'est une personne seule qui fait une conférence. Bon, peut-être que c'est un cas particulier des participants au groupe transcription, mais je pense que mes prédécesseurs éprouvaient la même satisfaction.
Alors, c'est une explication très claire à la fois sur l'intérêt pour les autres et pour ceux qui participent au groupe transcription. Je te remercie. D'ailleurs, j'en précise que la transcription de la première émission de Libre à vous sera bientôt disponible. Alors, tu parlais du groupe de travail transcription. Comment ce groupe fonctionne ? Combien de temps prend une transcription, mais aussi une relecture ? Parce qu'une contribution possible, c'est une relecture. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment fonctionne ce groupe et combien de temps prend une transcription ou une relecture ?
Alors, le groupe fonctionne en utilisant deux outils principaux qui sont la liste de discussion transcription sur laquelle il faut s'inscrire et puis le wiki sur lequel il faut créer un compte pour pouvoir communiquer une information. Alors, le wiki, c'est un emplacement du site de l'April et les liens seront indiqués. Ils sont peut-être déjà indiqués
sur les
documents qui sera en ligne. Donc, sur le wiki, vous vous connectez, vous créez une page de la nouvelle transcription et puis on peut insérer des informations en respectant la syntaxe dans les diverses rubriques du wiki. Donc, les diverses rubriques, c'est suggestions, en cours, à relire ou publier. Alors, évidemment, quand on commence une nouvelle transcription, il est de bon temps d'avertir, d'envoyer un message sur la liste de discussion. Ce message sera distribué à tous les colistiers et toutes les colistières. Et il est de bon temps de l'indiquer aussi sur le wiki. Voilà la façon dont le groupe fonctionne. Quand la transcription est terminée, même chose, un message est envoyé à la liste de discussion. Et un message est envoyé aux intervenants et aux intervenantes pour les avertir de l'existence de cette transcription et pour leur demander l'autorisation de publier ultérieurement la transcription finalisée sur le site de l'April. Alors, une fois que la transcription est faite, premier jet, le texte doit être relu avec et sans le son, corriger la grammaire, l'orthographe, corriger les mots redondants qui sont utilisés par certains intervenants, parce qu'on a tous quelques habitudes. On répète plusieurs fois les mêmes paroles, donc tout ce qui est en double est supprimé. Puis des liens vers des sites qui permettent de compléter les propos de l'orateur sont insérés. Donc, ensuite, la conscription est finalisée, comme vous dites, à la prise du drupalisé, et une illustration est ajoutée, et la transcription, c'est-à-dire un fichier HTML, est publié sur le site de l'April. Alors, les relectures prennent aussi du temps. Alors, je vais d'abord, les relectures prennent du temps parce qu'il faut effectivement tout contrôler, s'assurer qu'il n'y a aucune erreur, s'assurer que l'orthographe et la grammaire sont correctes. Combien de temps prend la transcription en premier jet ? C'est là difficile à dire parce que ça dépend de l'orateur, ça dépend de sa vitesse d'élocution et ça dépend aussi de la qualité de l'enregistrement. Et puis, concernant le transcripteur ou la transcriptrice, ça dépend aussi de la connaissance que la personne possède du sujet qui est traité. Bon, si on compte, une heure d'enregistrement, effectivement, peut nécessiter plusieurs heures de transcription pour le premier jet. Et puis après, on passe à la relecture.
Ok, c'est très clair. Alors, quand tu parlais de drupaliser, c'est à l'April, ça veut simplement dire en fait que le gestionnaire de site web qu'on utilise, c'est Drupal. Donc, c'est publier sur le site de l'April de façon officielle la transcription. Donc, je le précise pour les personnes qui écoutent. Dernière question, maintenant que tu as fait partager effectivement l'intérêt des transcriptions, à la fois pour ceux qui vont, les personnes qui vont lire et pour les personnes qui font les transcriptions, comment une personne peut contribuer à ce groupe transcription ?
Alors, pour contribuer, il faut déjà savoir qu'il n'est pas nécessaire d'adhérer à l'April. Hein. N'importe qui peut contribuer. Par exemple, nous avons beaucoup d'intervenants quand ils reçoivent le message que la transcription existe avec le lien. Ils se créent un compte, ils font les corrections qu'ils jugent nécessaires. Donc, il n'est pas nécessaire d'adhérer à l'April. Une première participation qui peut être très simple et qui n'engage pas beaucoup la personne. Récemment, on a quelqu'un qui a indiqué une conférence qu'elle appréciait et pour laquelle elle aimerait pouvoir lire la transcription. Donc voilà une forme de participation qui est tout à fait simple, qui n'engage pas beaucoup, mais enfin qui pour nous est utile parce que de temps en temps, on peut manquer quelques vidéos qui seraient intéressantes pour les thèmes traités par l'April. Et puis ça encourage aussi à poursuivre le travail parce que ça veut dire qu'on est suivi. Alors, si on veut s'impliquer de façon un petit peu plus approfondie, je pense que la première chose à faire, c'est de visiter la page wiki du groupe. Donc, les adresses vous seront indiquées. Peut-être commencer par une relecture pour se mettre un petit peu dans le bain. Vous vous rendez à l'onglet correspondant, vous faites votre choix. Et puis, on a un relecteur, il y a quelque temps, qui a envoyé un message ensuite en disant « J'ai relu, c'était passionnant ». Donc, tout le monde devrait pouvoir se passionner pour des relectures. Si vous voulez vous impliquer davantage, vous pouvez vous inscrire à la liste des discussions, vous faire connaître, poser des questions, on y répondra si vous en avez. Et puis, vous lancer, commencer un enregistrement de votre choix. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui se sentent motivés, on avait essayé aussi d'insérer des sous-titres. De toute façon, il faut d'abord que la transcription soit faite pour ensuite commencer à insérer des sous-titres sous des vidéos sur lesquelles il est permis de le faire. Bon, si les personnes sont intéressées, n'hésitez plus, rejoignez-nous. Nous vous attendons avec plaisir.
Écoute, j'espère que plein de personnes vont répondre à cet appel. Donc, je précise que les références que tu as citées, et notamment la page wiki sur laquelle il y a les transcriptions en attente et la liste de diffusion donc, pour s'inscrire, sont sur le site de l'April, dans la page citée en référence. Écoute, je te remercie Marie-Odile pour toutes ces explications et aussi je te remercie du fond du cœur pour toutes ces transcriptions et je crois que toutes les personnes qui ont été transcrites par ce groupe et par toi te remercieront. À bientôt Marie-Odile.
Au revoir à toutes et à toutes. À la prochaine.
Alors, n'hésitez pas surtout à rejoindre ce groupe transcription. Donc, avant d'aborder le sujet de la directive droit d'auteur, on va faire une petite pause musicale. Et c'était un oubli lors de la première émission, parce que je tenais absolument à ce qu'il y ait un morceau de Rico da Alvarez, qui est un compositeur et artiste bordelais, qui est notamment l'une des personnes à l'origine du site Musique Libre. Et donc, on va faire un de ses morceaux assez anciens, qui s'appelle Complete Lobotomy. Et on se retrouve juste après.
Cause commune, 93.1, la voie des possibles. Cause commune, cause-commune.fm. Partage ta radio.
Vous êtes de retour donc sur Cause commune 93.1 en Île-de-France et sur cause-commune.fm. Donc vous venez d'écouter notre ami Rico da Alvarez avec son morceau Complete Lobotomie et donc la référence évidemment sur le site de l'April. Donc nous allons passer au deuxième sujet, on va dire le gros sujet du jour, qui est la directive droit d'auteur, et notamment les articles 13 et article 11. Donc ça va nous donner l'occasion de refaire un tour de parole des personnes présentes. Donc Léa Chamboncel, vous êtes de la campagne Create Refresh, en une phrase, Create Refresh.
En deux mots, ouais, tout à fait.
Non mais en une phrase
de
la description.
En deux mots, Create Refresh, en une phrase de la description. En gros, Create Refresh, c'est un mouvement de promotion de la liberté de création sur Internet qui donne la voix aux auteurs et aux créateurs qui se servent de l'outil Internet de pouvoir parler un peu de ce qu'ils aiment faire sur Internet, de pourquoi Internet est un outil fondamental pour eux et comment il faut conserver cet Internet libre et ouvert pour qu'ils puissent continuer à travailler correctement.
D'accord,
et à
merci.
Partager leur création.
Merci Léa. Donc Marc Ress, toujours rédacteur en chef de Next Impact.
Dernière nouvelle, oui.
Donc en une phrase, Next Impact.
Next Impact.
En deux mots.
En deux mots et une phrase, c'est un site d'actualité qui existe depuis bien longtemps, qui est totalement indépendant et autofinancé avec l'aide des lecteurs. Et moi, de par ma formation, je suis spécialisé dans le droit des nouvelles technologies. Et la question de la responsabilité des intermédiaires techniques, qui est le cœur de l'article 13, justement, qu'on va dérouler tout à l'heure, fait partie de mes sujets de prédilection.
D'accord. Alors, normalement, nous avons au téléphone Anne-Catherine Lorrain, qui est conseillère politique à la Commission parlementaire Affaires juridiques au Parlement européen pour le groupe des Verts européens. Donc, Anne-Catherine, est-ce que tu es en ligne ?
Oui, je suis là. Bonjour à tous.
Voilà, la description que j'ai faite est exacte ?
C'est bien, okay. Parfait, ça me va.
En tout cas, merci de ta présence depuis Bruxelles. Et donc pour finir,
merci à vous, avec plaisir.
Et pour finir, donc, mon collègue Étienne Gonu, qui est donc chargé de mission Affaires publiques à l'April, et qui va faire donc, on va dire, l'introduction, le délicat travail d'introduction sur ce sujet de la directive droit d'auteur et des articles 13 et article 11.
Bah, tout à fait. Donc, bonjour à tous, à nouveau. Donc, effectivement, en octobre 2016, donc il y a près de deux ans maintenant, la Commission européenne révélait son grand projet de réforme du droit d'auteur dans le cadre de ce qu'on appelle le paquet pour un marché unique numérique. Donc la réforme était attendue, hein, il faut quand même avoir à l'esprit que la directive précédente, est donc est toujours en vigueur, date de 2001, donc dans un contexte technologique très différent, hein, il faut quand même avoir à l'esprit qu'en 2001, YouTube et Facebook n'existaient pas encore. C'est donc un contexte donc technologique très différent. Alors, réforme très attendue, mais malheureusement, loin de proposer une réforme ambitieuse qui adapterait le cadre juridique aux nouveaux usages, une réforme qui serait issue d'un large débat de fond, ouvert sur des perspectives nouvelles, qui sortirait finalement des représentations du siècle dernier, qui nous sortirait de cette distinction devenue obsolète entre création et consommation passive de contenu. Le texte de la Commission entend créer des rustines, finalement, genre des rustines juridiques au texte de 2001 pour contenir, voire contredire les évolutions techniques de ces dernières années et les usages qui se sont construits autour. On verra d'ailleurs que quasiment toutes les voix qui se sont élevées depuis, hein, des voix d'associations, du secteur académique, d'entreprises, ont globalement été copieusement ignorées. Alors en gros, et en caricaturant un peu, à peine, le texte propose d'escamoter tout ce qui fait l'Internet un réseau libre et ouvert, neutre et accentré, pour en faire un espace d'échange marchand des informations et du savoir, construit autour de silos bien identifiés, contrôlés par l'industrie culturelle et les grands groupes de presse. Tout ça évidemment présenté comme étant l'unique manière de protéger les auteurs et la liberté de la presse. Alors là, je dessine volontiers à gros traits, mais le danger est bien réel, donc d'où la nécessité d'une mobilisation large et importante. Alors concrètement, ce que je décris se traduit dans la proposition de directive par deux points en particulier, qui sont donc l'article 13 et l'article 11. Alors l'article 13, qui concerne plus directement le logiciel libre, alors on y reviendra plus en détail, mais en somme, il s'agit de rendre les plateformes responsables des contenus que leurs utilisateurs et utilisatrices vont mettre en ligne, et pour ce faire, de leur imposer la mise en place de filtres automatisés, des filtres de la censure en somme. L'article 11, quant à lui, veut donner le droit, un droit d'auteur, aux éditeurs de presse pour leur permettre de faire payer ou voire d'interdire, hein, pourquoi pas, les liens vers leurs articles. Là, on parle souvent d'ici d'une taxe sur les liens, la taxe link, pour décrire cette idée. Ceux qui suivent peut-être ces sujets sauront qu'en Allemagne ou en Espagne, ils ont tenté le coup, et ça a été catastrophique pour la presse d'ailleurs en particulier. Alors dans les deux cas, on voit que la cible, c'est bien notre capacité collective à partager, à diffuser, voire à modifier et à contribuer à l'information, au savoir dans toutes ses formes. Alors je pense qu'il serait intéressant de savoir comment on est arrivé là, et comme on a la chance d'avoir quelqu'un qui travaille directement sur ces sujets dans le cadre Parlement européen, je pense que...
Tout à fait, effectivement. Donc, pour résumer, en fait, l'article 13, c'est le filtrage des contenus, la mise en place de filtrage de contenus. L'article 11, c'est l'instauration d'un droit voisin pour les éditeurs de presse. Alors effectivement, nous avons la chance d'avoir Anne-Catherine Lorrain au téléphone qui suit ces dossiers depuis longtemps, donc en direct du Parlement européen. Donc Catherine, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le contexte de cette réforme, le rapport de Julia Reda en 2015, la proposition de la Commission, et puis où on en est actuellement au niveau du Parlement européen ?
Oui. D'abord, je serais peut-être un petit peu moins sévère vis-à-vis de la Commission, parce que donc déjà, il propose une directive qui est l'un des actes législatifs les plus généraux, disons, que l'Union peut produire. Vous savez peut-être que parmi tous ces actes législatifs, la Commission peut proposer une directive ou alors un règlement, par exemple. La directive étant l'acte le plus général, et les États membres ont beaucoup de liberté quant à l'application de cette directive qui consiste en fait en des grandes lignes générales. Donc je serai un petit peu moins sévère parce que la Commission ayant l'initiative législative, ils ont quand même osé proposer certaines choses qui n'étaient pas du tout courantes en droit d'auteur au niveau européen, comme par exemple le text and data mining, la fouille de texte et de données. Ils ont osé aborder l'activité des institutions culturelles, la préservation du patrimoine numérique, qui étaient quand même des sujets très très peu abordés jusqu'à présent. L'article 13, on est d'accord, c'est quelque chose d'extrêmement sensible et qui nous cause beaucoup d'arrachage de cheveux en ce moment dans les négociations internes au Parlement. Mais tout n'est pas si négatif que ça. Alors, pour revenir sur le calendrier un petit peu. Alors en 2001, la Commission avait proposé cette directive sur le droit d'auteur dans la société de l'information, c'était le titre, qui pour la première fois adaptait les règles de droit d'auteur qui existaient dans les différents États membres à la dite société de l'information. À l'époque, on parlait plus de ça que du numérique ou du digital. Et avant cela, dans les années 90, il y avait eu plusieurs instruments législatifs qui abordaient différentes thématiques de droit d'auteur, comme par exemple le droit de location et de prêt, la câblodistribution, câbles et satellites d'œuvres audiovisuelles, la durée des droits voisins, ce genre de choses. Donc depuis 2001, c'est sûr qu'il y avait un fort besoin d'adaptation. La société de l'information a beaucoup évolué depuis 2001, comme vous le savez très très bien. Alors en 2015, j'étais à l'époque assistante parlementaire de Julia Reda, et donc j'ai beaucoup travaillé sur son rapport, qui n'était pas un rapport législatif à proprement parler. Il s'agissait d'un rapport en fait qui donnait de la part du Parlement des objectifs dirigés vers la Commission, dont on savait qu'elle allait proposer des pistes législatives très bientôt. On ne savait pas quand ce serait, mais c'était une espèce de rapport parlementaire intermédiaire pour inciter la Commission à explorer certaines pistes dans sa prochaine révision du droit d'auteur à l'ère numérique. C'était très difficile parce que déjà le fait que Julia Reda ait eu le rapport, c'est quelque chose d'un peu inespéré. La seule députée partie pirate du Parlement européen, c'était un peu un cadeau empoisonné. Ok, elle veut le rapport sur le droit d'auteur, on lui donne, bon courage. Et effectivement, ça a été difficile. Mais Julia Reda étant quelqu'un d'extrêmement compétent et qui a brillamment réussi quand même à avoir un rapport sur lequel elle a pu garder son nom, il y avait des déceptions, il y a eu des compromis un petit peu difficiles à concéder. Néanmoins, on était assez satisfaits du résultat. Vous vous rappelez peut-être qu'il y avait un aspect qui avait occupé les premières lignes de la presse, c'était la dite liberté de panorama, freedom of panorama, c'est-à-dire la liberté, la clémence, si on veut. On autorise les utilisateurs à publier en ligne des photos d'œuvres qui sont présentes dans l'espace public, typiquement une photo de la Tour Eiffel. Mais en France, la photo de la Tour Eiffel la nuit est soumise en fait à des droits d'auteur. Donc, en principe, vous n'avez pas le droit de mettre en ligne cette photo de la Tour Eiffel qui s'illumine la nuit. En Autriche, c'est autre chose. En Allemagne, c'est autre chose. Sur d'autres genres d'œuvres, dans tel espace public. Donc, il y avait un besoin d'harmoniser et de créer une exception aux droits d'auteur pour cet usage particulier. Alors que c'était un aspect très, très petit, finalement, de ce qu'on proposait ou des exceptions aux droits d'auteur en général, mais ça a attiré beaucoup l'attention du public et de la presse, et c'était très bien, d'ailleurs. Et au final, c'est passé à la trappe au niveau du vote final du rapport. Donc, il y a eu une consultation publique ensuite de la commission qui a vu que le sujet intéressait beaucoup de monde. Beaucoup de réponses publiques ont été reçues par la commission. Mais la commission a décidé de ne pas aborder le sujet, donc comme vous le savez, ça ne fait pas du tout partie de sa proposition de directive. Et ça, c'est très critiquable, parce que c'était dans la version du rapport de Reda du Parlement en 2015, jusqu'à ce que ça tombe à la trappe au dernier moment, et il y a eu beaucoup de réponses à la consultation publique, donc ils savaient très bien que c'était un sujet crucial. Donc, au niveau du Parlement, maintenant, on va peut-être essayer de le réintroduire dans des compromis alternatifs, par exemple.
D'accord, ça c'est pour la liberté de panorama. Et pour le reste donc des sujets qui nous intéressent, finalement, qu'est-ce qu'il y a dans la proposition de la Commission et où on en est d'un point de vue on va dire parlementaire pour savoir justement à quel niveau on peut agir?
Ouais. Déjà, pour vous situer un peu au niveau de la procédure, le Parlement doit de toute façon être impliqué dans la procédure législative. Quand il s'agit de directives, c'est la procédure législative ordinaire. Et la Commission des affaires juridiques est compétente au titre du droit d'auteur, d'emblée, d'office. Donc la Commission dite jury doit faire un rapport législatif. Et le rapporteur sur cette directive est en fait désigné en fonction de, du poids politique, plus ou moins. C'est un peu négocié. Donc là, il s'agit d'un rapporteur, M. Voss, qui est du parti le plus important, le plus gros au Parlement, qui s'appelle le PPE, plutôt de droite.
Parti populaire européen.
Voilà, c'est ça, Parti populaire européen. Ensuite, chaque groupe politique existant au Parlement doit désigner un rapporteur fictif qui va discuter, chacun de ces rapporteurs fictifs vont discuter avec le rapporteur des amendements compromis. On dépose tous des amendements sur la proposition de rapport de M. Voss, en l'occurrence, et ensuite M. Voss doit organiser des réunions, là on en a eu peut-être 10 ou 15 déjà, dont peut-être 5 uniquement sur l'article 13, pour discuter de compromis, savoir comment on peut se mettre d'accord, étant donné tous les amendements que chacun a déposés. Donc, le rapporteur fictif pour le groupe des Verts, c'est Julia Reda. Et on est donc impliqué dans chacune de ces réunions de compromis. D'autres commissions parlementaires peuvent aussi donner un avis. Par exemple, on a la commission marché intérieur affaires consommateurs, IMCO, qui d'habitude intervient sur tous les dossiers législatifs qui concernent le marché intérieur, le marché unique numérique en général. Et on a obtenu, sous notre impulsion, disons, qu'ils aient une compétence partagée sur l'article 13, parce que on savait que la commission IMCO est un petit peu plus raisonnable sur ces questions, plus pratique, moins dogmatique et moins conservatrice que la commission jury. Et étant donné cette compétence partagée sur cet article, et sachant que l'avis IMCO en fait est positif sur cet article 13, c'est tout à fait acceptable le compromis qui a été adopté. On essaye de forcer le rapporteur à le prendre dûment en cause et la commission IMCO a le pouvoir, en vertu des règles parlementaires, de pousser pour l'adoption de son propre compromis en déposant des amendements au niveau de la plénière. Parce que le 21 juin, on va voter en commission des affaires juridiques et ensuite, plus tard, on votera en plénière. C'est-à-dire c'est tout le Parlement en son entier à Strasbourg qui votera le texte final. Ce sera la position du Parlement final. Mais avant cela, entre le vote de la commission jury et ce vote final, il y a ce qu'on appelle des négociations de trilogue qui vont prendre place. Il s'agit de, comme le nom l'indique, trilogue, trois institutions qui discutent autour d'une table au niveau le plus haut politique et aussi au niveau technique, tout le staff, les advisors, donc j'en ferai partie, entre commission, conseil et Parlement.
Donc le trilogue, c'est Commission, Conseil et Parlement européen.
Oui, c'est ça. Sachant que ce triptyque-là, il existe d'emblée. Hein. La Commission fait sa proposition en ayant déjà un peu parlé avec certains parlementaires, en sachant déjà un peu la position de certains États membres. Et le Conseil fait pression aussi. Vous avez entendu parler que le COREPER, c'est-à-dire le Conseil des représentations permanentes, tous les représentants des gouvernements nationaux compétents sur les droits d'auteur, en l'occurrence, se réunissent régulièrement et ils sont parvenus à produire une position commune le 25 mai. Et là, ça nous met une pression supplémentaire, surtout au rapporteur parlementaire, là, M. Voss, puisqu'il sait que le Conseil est prêt. Et pour nous aussi, c'est très utile parce qu'on sait où on peut aller dans les compromis parlementaires. En ayant une idée un peu de levier de négociation qu'on peut avoir avec le Conseil. Donc c'est une très bonne chose qu'il soit arrivé à une position commune déjà.
D'accord. Merci Anne-Catherine pour cette introduction. On va revenir évidemment sur ce qui va se passer en jury et au niveau du trilogue ultérieurement. Là, je vais repasser la parole rapidement à Étienne, puis ensuite à Marc Reiss pour rentrer un peu plus dans le détail de la menace que fait peser l'article 13 plus globalement sur Internet. Donc Étienne.
Oui, donc l'article 13. Alors l'article 13, qu'est-ce qu'il raconte ? Alors déjà, il faut voir effectivement, comme Anne-Catherine le disait, qu'il y a donc plusieurs textes qui sont parallèles. Hein, donc le but final, ça va être de trouver le compromis entre ces différents textes dans le cadre du trilogue. Donc il y a des variations, mais la dynamique finalement reste la même. Alors déjà, c'est quand même plutôt un texte assez technique, je trouve, et qui n'est pas forcément évident en première lecture d'en comprendre les tenants et les aboutissements. En gros, je parle sous le contrôle d'experts, j'ai cette chance-là. Dans un premier temps, je pense qu'on peut voir qu'il y a plus ou moins une obligation pour les plateformes de partage de contenu de passer les accords avec ce qu'on appelle les titulaires de droits. Autrement dit, finalement, les sociétés de gestion de droits d'auteur, type SACEM, pour parler par exemple des plus connues. Au passage, on pourra noter qu'a priori, ça renforcera ce modèle en renforçant la position de ce genre de structure. Et donc, des accords dont le but seront quelque part de gérer l'utilisation des œuvres soumises aux droits d'auteur qui sont dans l'escarcelle de ces sociétés de gestion. Et dans un deuxième temps, pour assurer que ces accords se passent bien, ou si aucun accord n'est obtenu, bah, que ça se passe bien aussi, du point de vue des sociétés de gestion, bah, obliger ces dites plateformes à mettre en place des filtres automatisés, de la censure automatique si on veut, sobrement appelée dans les textes, mesures de reconnaissance de contenu. Alors, ce genre de mesures, on en connaît une, il y en a une qui est en place, hein, qui existe dans YouTube, celle qu'on appelle Content ID. Alors, elles sont très largement décrites, déjà parce qu'elles sont très chères à mettre en place, très compliquées à développer et peu fiables, ne serait-ce que même intrinsèquement peu fiables, parce que bah, on imagine bien qu'un algorithme est incapable de discerner ce qui va relever d'une utilisation, d'une exception autorisée au droit d'auteur, par exemple la parodie, pour prendre une des plus célèbres. Alors, je parlais de Content ID, hein, qui est régulièrement pointé du doigt pour ce qu'on appelle les faux positifs. Ça va considérer qu'il y a une violation du droit d'auteur alors qu'il y a une exception légitime qui est en place, et parfois avec des conséquences dramatiques pour les créateurs ou les créatrices. D'ailleurs, je pense qu'on peut noter finalement un relatif paradoxe, hein, d'une directive qui est clairement construite pour s'attaquer aux plateformes, enfin à YouTube, hein, et qui impose finalement des règles pour imposer la mise en place d'un système que YouTube met déjà en place. Alors en fait, tout ça, ça traduit un vieux rêve des industries culturelles, c'est qui est de rendre les intermédiaires techniques responsables des contenus mis en ligne par leurs utilisateurs et utilisatrices. Alors pour bien comprendre cet enjeu, il est utile, je pense, qu'on s'arrête un instant sur une autre directive, la directive e-commerce, hein, qui date de 2000, et qui inscrit dans le droit européen des principes qui paraissent assez sérieusement remis en cause par l'article 13. Alors, d'une part, ce qu'on peut appeler l'irresponsabilité par défaut des hébergeurs par rapport au contenu que leurs utilisateurs mettent en ligne. On parle aussi d'un régime allégé. Et une interdiction aux États d'imposer aux hébergeurs une surveillance généralisée des contenus. Alors, Marc, je sais que tu es très... ça fait longtemps que tu travailles ces sujets-là. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus?
Alors, Marc Reiss de Next Impact qui grognait un petit peu, donc on te laisse intervenir.
Parce que j'aime pas la notion d'irresponsabilité parce qu'elle n'est pas exacte, pour ne pas dire fausse.
Alors, Marc, fais-nous un petit rappel sur tout ce qui est directive e-commerce, loi de la profession économique et les industries culturelles que tu fréquentes depuis très longtemps.
Oui.
Malheureusement.
Alors, pour essayer de résumer les choses, dans la vraie vie, on va se tutoyer, quand tu fais une bêtise, bah, tu en es responsable. Tu fais une bêtise, donc... tu répares cette bêtise, voilà. Sur Internet, c'est un peu plus compliqué. Tu peux faire une bêtise sur Internet directement, une diffamation ou autre, à ce moment-là, bon, bah, tu assumes tes actes. Quid des plateformes? Plateformes qui, techniquement, s'appellent des hébergeurs ou des intermédiaires techniques. Pour prendre des exemples, on va parler de YouTube, Facebook, ou alors le petit blog, ou alors qu'il y a un espace de commentaires, etc. etc., etc. Sur ces espaces-là, on peut faire des bêtises. Et il y a une alternative qui est assez simple. Comment on fait pour traiter cette bêtise au regard de la plateforme? Il serait inique de déresponsabiliser la plateforme au regard de ses faits illicites, mais il serait tout aussi inique de la responsabiliser directement parce que on a un individu, Jean-Kévin, qui a publié des grosses bêtises sur une zone de commentaires ou qui a mis en ligne l'intégrale d'Annie Cordy sur un espace d'hébergement disponible à tous. Donc, le législateur européen, puis après le législateur de chaque État membre, a opté effectivement, comme Étienne le disait tout à l'heure, pour un régime qui a été fixé, forgé en 2000, c'est avec la directive e-commerce, qui fonctionne comment? Eh bien, le principe, c'est que, par défaut, les plateformes ne sont pas directement responsables des bêtises commises par les internautes. C'est-à-dire je mets en ligne un fichier illicite, par exemple, sur une plateforme quelconque. Mais si la plateforme en question est alertée de la présence de ce fichier et qu'elle ne fait rien, à ce moment-là, celle-ci rentre dans la boucle de la responsabilité. Donc voilà, c'est un régime qui est tout en finesse, qui a généré une épaisse jurisprudence. Effectivement, ça remonte à 2000, mais... On a plein de lois qui sont très anciennes et qui sont toujours d'actualité, donc ce n'est pas forcément problématique. Donc ça a généré une épaisse jurisprudence, mais avant tout, là-dessus, je pense qu'il faut souligner un élément ultra important, c'est que cette responsabilité conditionnée des intermédiaires techniques, qu'on utilise tous les jours, que ce soit des plateformes d'hébergement de code, de vidéos, de musique, de texte, ou des zones de commentaires, des tweets, des messages Facebook. Donc, tout ce régime-là, il a été charpenté pour protéger une chose, c'est avant tout la liberté d'expression. Parce que, imaginez bien que si vous responsabilisez directement un petit acteur comme un géant, les fameux GAFA, pour des contenus mis en ligne par des tiers, eh bien, le premier réflexe qui va être constaté, ça va être un réflexe d'autocensure. C'est-à-dire, plutôt que moi m'embêter, pour ne pas dire plus, à prendre un risque et à me voir pénalement ou civilement poursuivi parce que telle personne a publié telle bêtise sur Internet, eh bien, ce que je fais, c'est que soit je ferme la zone de commentaires, soit je fais un contrôle a priori de tout ce qui est posté, et donc c'est juste invivable. Et en plus de quoi, certes, la propriété intellectuelle est un droit fortement honorable, mais on a aussi la liberté d'entreprendre, qui est un droit d'égale valeur constitutionnelle et qui doit être également protégé. Donc tout ça, c'est un équilibre subtil. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, quelques années, 17 ans après la directive e-commerce, on arrive à un texte où finalement, on va industrialiser des mesures de filtrage avec ce fameux article 13 qui est diablement technique, effectivement, qui va lui aussi générer une épaisse jurisprudence, mais qui va surtout générer de nouvelles atteintes à la liberté d'expression. Et c'est là où je trouve ça totalement absurde, c'est que finalement un texte qui est là pour protéger la création, qui est quand même le cœur du cœur de la liberté d'expression, eh ben on va arriver à un texte qui va menacer la liberté d'expression, et si ce n'est l'amoindrir terriblement. Voilà.
Alors, merci Marc, ça me donne l'occasion de passer la parole à Léa Chamboncel de la campagne Create Refresh en deux mots. Alors, pourquoi cette campagne? D'où vient-elle? Et concrètement, quel problème vous avez avec cet article 13?
Alors en fait, cette campagne a été mise en place par un certain nombre d'associations qui sont en faveur de la liberté d'expression et de création sur Internet. Je peux en citer quelques-unes à titre d'exemple qui étaient à l'initiative du mouvement. On a Copyright for Creativity, Center for Democracy and Technology, Communia, Open Media, Kennisland, qui se sont regroupés et au lendemain de la proposition de la commission, en voyant qu'effectivement l'article 13 allait poser un problème en liberté, en termes de liberté d'expression, comme tu le disais à très juste titre, Marc, mais aussi que l'Internet était finalement un outil essentiel, voire indispensable, pour énormément de créateurs aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment toute la web culture. Il y a plein d'exemples. Enfin, il y a un tas d'artistes qui ont pu émerger grâce à Internet et qui, avec l'application de l'article 13, en fait, se retrouveraient privés de leur outil de travail principal et n'auraient plus la possibilité de communiquer avec leur audience aussi facilement qu'ils peuvent le faire aujourd'hui. Donc, en fait, fort de ce constat que surtout la commission avait bien fait en sorte de ne pas les mettre au cœur du débat, je parle là des créateurs, on s'est rendu compte qu'il était assez important de les sensibiliser, de ne serait-ce que leur apporter l'information, qu'ils sachent en fait ce qui était en train de se tramer à Bruxelles, car eux, naturellement, n'avaient pas été sollicités et à aucun moment leur avis n'avait été pris en compte. Donc l'idée en fait du mouvement Create Refresh dans un premier temps, je veux dire, à très très court terme, c'est de faire en sorte que cet article 13 ne soit pas adopté. Donc, c'est essayer de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit à travers les créateurs. Donc, on a plein de créateurs qui ont créé leur contenu. On a des écrivains qui ont fait des textes. On a des photographes qui ont fait des petites photos. On a des DJ qui ont fait des vidéos ou encore des musiques spécialement pour la campagne. On a une danseuse. Enfin, on a vraiment tout type d'acteurs qui sont représentés sur la plateforme. Il y a plus d'une centaine d'artistes et d'une trentaine d'associations qui nous ont rejoint et qui nous soutiennent. À titre d'exemple, il y a plein d'associations. On a la Quadrature du Net qui nous a rejoint, qui nous soutient en tout cas. On a Wikimedia. Enfin, on a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Car il est essentiel en fait que l'information circule un maximum. Donc nous aujourd'hui notre priorité effectivement c'est de faire en sorte que l'article 13 ne soit pas adopté, mais dans un second temps, ce qui est aussi très très important, c'est aussi ce pourquoi on se bat, c'est que les créateurs reviennent au centre du débat et qu'il n'y ait pas uniquement les sociétés d'auteurs ou les majors qui puissent en fait faire valoir leurs intérêts auprès des décideurs publics. Donc l'idée, c'est aussi d'impliquer les créateurs dans ce qui est finalement le droit qui sera applicable demain pour eux. Donc là, on met en place une campagne de mobilisation sur une journée avec d'autres associations, justement pour faire un maximum de bruit. Donc le vote par la commission jury est prévu le 20 ou 21 juin. Donc la campagne de mobilisation commence à partir d'aujourd'hui. Il y a une grosse journée de mobilisation qu'on a appelée le Take Action Day, qui sera donc le 12 juin. Et là, je vous invite tous à participer, à vous mobiliser pour sauver Internet. Pour ce faire, il y a un site dédié qui a été mis en place qui s'appelle saveyourinternet.eu. Donc là, vous pouvez vous connecter directement. Et il y a des outils pour tweeter en fait, les parlementaires européens, leur envoyer un mail ou même les appeler pour justement les interpeller. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et donc voilà, il faut vraiment essayer de se mobiliser. Mais en fait, on s'est rendu compte en discutant avec d'autres acteurs que les créateurs, nous, c'est les personnes qu'on défend naturellement, mais finalement, cette disposition touche beaucoup d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'il y a le secteur universitaire, ils sont vraiment touchés de plein fouet. Les chercheurs sont vent debout aussi contre ces directives. Il y a les codeurs, naturellement. Enfin, là, il y a peut-être un moyen de fédérer. En fait, on se rend compte que finalement, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus auprès des acteurs qui sont concernés de plein fouet par cette disposition. Donc on ne comprend pas pourquoi les décideurs publics continuent dans cette direction.
Alors effectivement, comme tu le signales, il y a de nombreuses personnes qui sont mobilisées. Tu parlais effectivement des gens qui font de la programmation. Alors pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui, notamment sur une émission consacrée au logiciel libre ? Déjà, le logiciel libre et le logiciel en général est régi par le droit d'auteur, donc une directive basée qui révise le droit d'auteur nous concerne au premier chef. Et quand tout à l'heure Marc parlait, ou Étienne, je ne sais plus, de mise en place de filtrage automatique sur des dépôts d'œuvres, sur des plateformes qui permettent de téléverser des œuvres avec des suppressions éventuellement automatiques, bah, il faut savoir que parmi les plus grosses plateformes qui existent dans le monde, il y a ce qu'on appelle les forges logicielles. Ce sont des plateformes de partage de code, de logiciels libres, où les développeurs et développeuses publient du code. Ils poussent aussi dessus des fichiers images, des fichiers vidéo, texte ou toute autre ressource utilisée par le logiciel. Par exemple, en France, il y a une plateforme qui s'appelle Framagit, de nos amis de l'association Framasoft. Il faut savoir que, par exemple, l'État français utilise Framagit. Ils viennent de publier récemment Parcoursup, le code source de Parcoursup sur Framagit. Et très clairement, ces plateformes, demain, seront sous la même menace que les autres plateformes, c'est-à-dire qu'en fait, par défaut, toute personne qui voudra contribuer sur cette plateforme sera considéré comme un contrevenant potentiel. Il y a un reversement du droit de la preuve. Il y a un risque considérable de voir des codes disparaître par ces machines à censurer, ces robots censureurs. Et imaginez qu'une partie du logiciel est automatiquement supprimée, le logiciel ne fonctionne plus. Donc évidemment, c'est pour ça qu'on est évidemment très impliqué par cette directive. Et je pense que d'ailleurs que globalement, aujourd'hui, on peut se poser la question d'une personne qui veut contribuer au logiciel libre. Est-ce que la personne va prendre le risque de se considérer comme contrevenant potentiel en publiant du code sur une plateforme de code comme Framagit ou autre? Et je voulais faire une citation d'une tribune de Roberto Di Cosmo, qui est professeur d'informatique et qui s'occupe notamment d'un projet magnifique qui est Software Heritage, c'est-à-dire de permettre en fait d'avoir une conservation du patrimoine logiciel mondial. Et dans une tribune publiée récemment sur Le Monde, il dit « Il y a des millions de logiciels construits par des auteurs qui ont choisi d'en faire des logiciels libres. On estime que 80 à 90% d'une application informatique moderne est issue de cette réutilisation, et la suppression de chacun de ces composants peut avoir des conséquences imprévisibles. Alors, conséquences sociales et évidemment économiques. Donc, cette tribune, le lien, vous allez le retrouver sur le site de l'April. On va bientôt faire une petite pause musicale, d'ailleurs même tout de suite, avant d'aborder la suite, et notamment le point en jury, les mobilisations. Alors, la pause musicale, c'est Colima des Goulags de Matt Rita Pawon, et on se retrouve juste après.
Cause commune, 93.1, la voix des possibles.
Ancora non è sorto, ma adesso che ci penso un poco bene,
io me nol sole non c'è mai. Mi vesto in fretta ed esco fuori a salutare il bel mattino. Andiamo a farci quattro passi, la taglia è fresca e ce la brina. Al cinguettio degli uccelletti e fischiettando lavoriamo.
Clima de culo. Clima de culo.
Gioia spensierata mi hai regalato un'altra giornata. Colima gioia spensierata mi hai regalato un'altra giornata.
Colima de gula. Colima de gula.
Cause commune, cause-commune.fm. Partage ta radio.
Bien, vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'APRIL, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Donc nous venons d'écouter Colima des Goulags de Matrita Pawon, et évidemment la référence est sur le site de l'APRIL. Donc juste avant la pause musicale, nous parlions notamment des plateformes de code logiciel. Étienne, il y a une campagne qui a été lancée qui s'appelle Sauvons le partage de code, justement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots dans le cadre de la future vote en jury et en plénière ?
Alors bien sûr, ouais, donc Sauvons le code, Save Code Share pour son nom anglais. Alors ça, c'est une campagne qui a été lancée en septembre 2017. Parce que là, cette crainte qu'on exprime, on n'est bien sûr pas les seuls à l'avoir eue. Et donc deux associations qui ont vocation plus à une action européenne se sont saisies du sujet, donc la Free Software Foundation Europe, FSFE, et l'Open Forum Europe, OFE. Et ils ont lancé donc en septembre 2017 cette campagne Save Code Share. Alors elle est basée sur deux choses, déjà une lettre ouverte hein, qui résume finalement les enjeux qu'on exprimait jusqu'à maintenant et qui appelle finalement à la suppression de ce texte. Et ils accompagnent d'un livre blanc donc, qui propose en plus grand détail. Alors livre blanc qui me semble n'est que disponible en anglais. La lettre ouverte, vous trouverez un lien avec des bénévoles de l'APRIL, nous avons traduit cette lettre ouverte et elle est disponible sur le site et donc je pense dans la liste des références utiles que vous pourrez trouver donc sur notre site. Donc nous on vous appelle vraiment à signer cette lettre ouverte parce que ça montre aussi finalement qu'il y a un engagement, ça crée un rapport de force et montrer qu'il y a une inquiétude qui est réelle par les développeurs et les développeuses par rapport aux conséquences que pourrait avoir le texte en cause, l'article 13, et notamment avant le vote en commission jury du 20 ou 21 juin.
Alors merci Étienne. On va d'ailleurs revenir sur le vote commission jury et puis peut-être les évolutions du texte, notamment sur l'article 13 et la place des logiciels libres. Donc Anne-Catherine Laurin, qui travaille au groupe des Verts européens, est-ce que tu peux nous faire un petit point de la situation, s'il te plaît ?
Oui. Déjà, j'aimerais revenir sur la question du logiciel libre. Au bout de la 7e version du compromis sur l'article 13 qu'on a obtenu, qui a été en fait partagé par le rapporteur le 30 mai, il y a quand même une amélioration parce qu'on a obtenu que les plateformes de partage de logiciels libres soient clairement exclues du champ d'application de l'article 13. En fait, le rapporteur avait ajouté dans l'article 2 sur les définitions une définition des fournisseurs de services de partage de contenu numérique, et qui permet justement de clairement limiter en quelque sorte le champ d'application de l'article 13. Mais c'est toujours problématique, on est d'accord, parce que pour nous, c'est toujours trop vaste. Mais maintenant, ce que dit l'article, cet article 2, justement, qui définit ces services concernés par l'article 13, c'est que ces plateformes de logiciels libres sont exclues. Donc c'est tout de même un point positif. Ce que j'ai entendu, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je salue Create Refresh parce que c'est très très bien ce qu'ils font et ils étaient présents au Parlement européen, je crois, le mois dernier ou il y a quelques semaines. Et ils ont fait une exposition très très bien en invitant des parlementaires à y participer.
Merci.
Toutes les campagnes sont bienvenues. Mais en revanche, je ne suis pas sûre que la suppression de l'article 13 soit vraiment la meilleure option. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure dans la longue introduction que j'ai donnée tout à l'heure. La commission IMCO et aussi la commission Libé sur les libertés publiques ont un texte sur l'article 13 qui est raisonnable et satisfaisant. Il faut savoir que l'article 13 est le plus dogmatique de tous les articles de cette directive et qu'il est pratiquement impossible d'y échapper. C'est la raison d'être de cette directive, d'une certaine manière. Et le rapporteur et tout son groupe politique, qui occupe la majorité du Parlement, veulent cet article. Donc, on fait des maths, ça va être très difficile de passer à côté au niveau des votes. Alors, il vaudrait mieux pousser pour quelque chose qui est raisonnable et acceptable, qui prend en compte la directive e-commerce d'une façon raisonnable, plutôt que d'avoir quelque chose au final qui sera vraiment pas acceptable. Donc c'est pour ça qu'on est très actif dans les discussions de compromis pour essayer de trouver quelque chose d'acceptable. Et sachant donc que c'est très dogmatique, les solutions proposées sont souvent très mauvaises. En tant que législateur, on doit avoir à l'esprit trois choses principales. C'est la sécurité juridique. Il faut que le système soit prévisible pour tout le monde, pour les plateformes, les sites, les consommateurs, les ayants droit aussi. Il faut que le risque juridique pour les plateformes, c'est-à-dire ne pas avoir un risque de procès sur le dos dès qu'un contenu est téléchargé, il faut que ce risque soit limité. Deuxième chose, c'est la proportionnalité. Il faut que le système soit faisable, qu'en pratique, ce soit réaliste. Et souvent, bien, la relation entre le problème exposé, sur lequel on est d'accord, l'article 13, en fait, a vocation à trouver une solution au problème du value gap, comme on dit en anglais, du transfert de valeur. C'est la traduction générale qu'on donne en français, qui est un problème véritable. C'est vrai qu'il y a des ayants droit dont les contenus sont téléchargés illégalement et qu'ils perdent une rémunération à cause de cela. Mais la solution proposée n'est pas la bonne. L'article 11 aussi, c'est un petit peu toujours ce même problème entre problème et solution qui est disproportionné. La troisième chose, c'est la protection des droits fondamentaux, et Marc en parlait tout à l'heure. Et malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment pris en compte. L'article 13, maintenant, dans sa version de compromis au Parlement actuellement, a un paragraphe qui dit, évidemment, les droits fondamentaux doivent être respectés, il ne doit pas y avoir une obligation générale de surveillance de contenu, comme le dit l'article 15 de la directive e-commerce, mais cette déclaration de principe ne suffit pas quand on lit ce que le reste de l'article 13 dit, c'est-à-dire le contraire. En fait, ce que dit l'article 13 maintenant, selon la version du rapporteur parlementaire, c'est que tous les sites de partage de contenu en ligne font un acte de communication au public, ce qui fait qu'ils ont l'obligation d'obtenir des licences auprès des ayants droit, et s'il n'y a pas de licence, ils sont responsables. Donc l'articulation avec la directive e-commerce est là de toute façon. Et la commission avait très bien conscience que l'articulation entre ces trois éléments, acte de communication au public, licence, responsabilité, était extrêmement délicate. D'où, ce qui est assez amusant à voir, le nombre de considérants, ce qu'on appelle des considérants, ce sont des dispositions législatives dans la directive qui complètent les articles principaux. Donc à l'article 13, et il y a un très grand nombre de considérants qui essayent d'éclairer l'intention des législateurs qui vont servir à la Cour européenne et aux cours, aux tribunaux nationaux d'interpréter l'article 13 pour justifier justement tout, tout ce nouveau mécanisme. Et la difficulté était tellement grande qu'il y a quatre considérants par la Commission et dans la position du Conseil du 25 mai, il n'y a pas moins de 10 considérants pour expliquer comment ça marche, pour tourner un pot autour du pot, pour dire oui, mais c'est vrai que la directive e-commerce, ça s'applique, mais bon, il faut prendre ceci en compte et cela, ce qui rend le système extrêmement illisible et ce qui n'aide pas à la sécurité juridique.
Alors, merci Anne-Catherine pour ces précisions. Avant de repasser la parole pour peut-être qu'il commente effectivement ce point-là, je voudrais juste... Je comprends effectivement ce que tu expliques sur les amendements de compromis, sur le fait que de toute façon le texte sera voté, il faut peut-être obtenir le meilleur, mais je crois que tu te souviens sans doute qu'en 2005, il y avait une directive très dogmatique dite brevet logiciel qui a été rejetée. Plus récemment, en 2012, l'accord commercial anti-contrefaçon, pareil, a été rejeté au niveau du Parlement européen. Donc nous sommes des éternels optimistes, nous pensons qu'un texte mal fagoté peut être repoussé, mais effectivement s'il n'est pas repoussé, il faudra essayer d'obtenir le meilleur via les amendements. Et donc je vais repasser la parole à Marc, peut-être qu'il a quelques commentaires sur ce qui vient d'être dit.
Non, c'était très complet. Si, peut-être un commentaire sur le rôle de la France dans ce dossier, puisque la France a été... plutôt parler des sociétés de gestion collective qui ont une puissance de frappe qui est juste extraordinaire en France. Un pouvoir politique.
Alors, c'est gestion collective de quoi ? Est-ce que tu peux préciser ?
Gestion collective des droits d'auteur. D'accord. En fait. Donc, c'est prélever de l'argent, les redistribuer aux producteurs ou aux artistes, etc., etc., moins une dîme liée aux frais administratifs, notamment. Ces sociétés de gestion, type la SACEM ou la SACD, la DAMI, la SPEDIDAM, etc., etc., ont une puissance de frappe extraordinaire et elles ont un objectif en vue, c'est la fin de cette... ce qui présente être comme étant une irresponsabilité des plateformes sur les contenus mis en ligne par les internautes, que ce soit la musique, des films, du code, du texte, de la photo, que sais-je. Donc l'idée, c'est d'accentuer la responsabilité des YouTube, des Twitter, des Facebook, des machins, des trucs, pour soit pouvoir engager la responsabilité directe de cette plateforme-là, soit justement négocier avec un pistolet sur la tempe un accord de licence qui sera dûment rémunéré afin d'autoriser de manière localisée tel ou tel échange. Donc, et la France là-dessus a été pionnière et c'est clairement sa cible. Et l'origine de ce lobbying des industries culturelles se situe au CSPLA, au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, qui est gorgé d'ayants droit et de quelques intermédiaires techniques, mais ils sont 8 ou 9. Et cette antichambre du ministère de la Culture est taillée pour, de ces derniers mois, est taillée pour faire tomber le régime de l'hébergement. Et là, actuellement, en l'état de l'article 13, avec cette mise en responsabilité directe de YouTube, des Twitter, des Facebook, etc., 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 et ben, ils ont gagné une étape décisive. Donc c'est pour ça que les jours qui suivent, là, et notamment ce vote en commission des affaires juridiques, au Parlement européen sont cruciaux, puisque finalement c'est le sort de la liberté d'expression sur Internet, de la liberté d'entreprendre, de la sécurité juridique, de la prévisibilité, de la liberté d'expression qui est entre les mains de ces quelques précieux europarlementaires.
Mais en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que tous ces sujets essentiels en France, la position est finalement dictée par le ministère de la Culture et en fait par les ayants droit. Et donc finalement, les autres ministres, je pense notamment au secrétaire d'État au numérique, je pense au ministre en charge de l'administration publique, je ne me souviens plus de son titre officiel, mais ce que tu expliques, c'est que depuis des années, en fait, c'est le ministère de la Culture qui décide tout et des ayants droit.
Oui, ben on aurait pu peut-être attendre de Mounir Majoubi un discours un peu plus pro-économie numérique ou autre. Ben non, pour autant, j'ai souvenir de... Il y a quelques mois, j'étais à Lille au Forum international de la cybercriminalité, pardon, et celui-ci défendait des thèses qui n'étaient pas extraordinairement éloignées de celles entendues au CSPLA. Donc, pour moi, le capitaine de ce bateau, c'est effectivement le ministère de la Culture qui pousse à cette responsabilité accrue des intermédiaires techniques, peu importe les effets.
Léa.
Si je puis me permettre, effectivement, je rebondis sur ce que Marc est en train de dire. J'ai fait récemment un podcast où j'ai interpellé des députés français pour savoir s'ils étaient effectivement au courant de cette question. Parce qu'on se rend compte que finalement, le ministère de la Culture est en train de le faire en catimini. C'est-à-dire que quand on avait interrogé, on a eu la chance de croiser la vice-présidente de la Commission de la Culture, qui est par ailleurs présidente du groupe d'études droit d'auteur à l'Assemblée nationale, qui semblait quand même assez peu au courant de cette question. Donc on se rend compte.
Elle s'appelle comment ?
Elle s'appelle Frédérique Dumas. C'est une députée LREM. Et on se rend compte que finalement, il y a une espèce de gros flou, d'énorme opacité sur ce qui est effectivement en train de se passer dans les couloirs du ministère de la Culture et qui est finalement en train de se passer également dans les couloirs des instances européennes, où même les parlementaires français que j'ai pu interroger n'étaient pas au courant de ce qui se passait. C'est-à-dire que j'ai interrogé des parlementaires de tous bords, LREM, Nouvelle Gauche, Les Républicains, qui n'étaient absolument pas au courant de ce qui se passait. Même et qui, par ailleurs, trouvaient que c'était absolument absurde. Tous les députés LREM qui ont été interrogés trouvaient ça parfaitement absurde, mais il n'y en a aucun qui est prêt à élever sa voix contre le gouvernement sur cette question-là. Donc il y a vraiment quelque chose qui est un peu curieux, de voir qu'il y a autant de flou, parce que finalement c'est une question qui se concerne, comme on l'a très bien dit, un tas de professionnels sur Internet, etc. Mais ça concerne aussi le simple utilisateur lambda d'Internet, que je suis, que vous êtes, que tout le monde est aujourd'hui, que les députés sont aussi par ailleurs. Ils sont tous absolument au fait que les algorithmes ne sont pas en capacité de venir apprécier toutes les particularités qui peuvent relever effectivement d'exceptions aux droits d'auteur, comme le disait Étienne tout à l'heure. Néanmoins, il n'y en a aucun qui prend publiquement position sur cette question. Donc c'est quand même assez curieux. Donc j'imagine que les directives qui ont été données au sein du groupe et des parlementaires doivent être assez claires. Et il est quand même assez surprenant que effectivement Mounir Majoubi n'ait pas de position un peu plus moderne peut-être sur cette question.
Marc, ouais. Tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, enfin, pour bien comprendre à nouveau, parce que je sais que le sujet est technique, juridique, etc. Donc ça peut être assez opaque d'un œil extérieur, mais on a entendu dans la presse ou lu ces multiples cas où Facebook a censuré des œuvres d'art, notamment, je pense, à l'origine du monde, ou alors une photo d'une maman qui donnait le sein à son enfant. Ben, ça, c'est un traitement algorithmique. Et un traitement algorithmique, excusez-moi du terme, mais c'est très con. Très con, parce que c'est un ordinateur, c'est pas un filtre humain qui va agir avec une sensibilité. Il n'y a aucune sensibilité dans un algorithme. Un algorithme, c'est on s'approche du grippin plutôt que d'être humain. Bon, mais là, il faut bien comprendre qu'avec cet article 13 de la directive, on va inscrire dans le marbre de la loi et généraliser dans l'ensemble de l'Europe des systèmes de ce type-là, mais pour taper sur du contenu, au prétexte que tel extrait de code, tel morceau telle reprise de musique dans un remix, telle photo qui va faire du collage, etc., à partir de plusieurs œuvres, va exciter un algorithme parce que lui va matcher une pattern, etc., etc., et ben, il va y avoir censure. Et donc, on va industrialiser à l'échelle de l'Europe ce qui, aujourd'hui, fait bondir pour quelques œuvres d'art, entre guillemets, qui sont toujours trop, sur Facebook.
Bon, il nous reste quelques minutes, le temps passe très vite, on n'aura pas l'occasion malheureusement d'aborder l'article 11 en détail, mais peut-être sans doute lors d'une prochaine émission. Étienne, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu concrètement qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent agir ? Parce que bon, visiblement ce que nous raconte Marc, ça a l'air d'être un poids de lobby très puissant, mais il y a sans doute des moyens d'action.
Tout à fait. Alors déjà, comme on parlait, il y a la pétition Save Code Share qu'on vous invite vivement à aller signer pour donner du poids à cette campagne, à cette mobilisation. Alors c'est pas la seule campagne d'ailleurs. Alors Léa parlait de Create Refresh. Vous avez la campagne Fix Copyright, Save the Link, là c'est sur l'article 11, Save the Meme. Donc tous ces liens sont sur notre site. Et Léa mentionnait Save Your Internet. Donc nous, on relayera effectivement l'appel l'appel à mobilisation Take Action du 12 juin. Car comme Fred, tu parlais plus tôt, finalement le lieu, l'espace d'action ou la cible principale où on peut avoir un poids, c'est le Parlement européen, qui va d'abord donc voter au niveau de la Commission, puis en plénière. Et c'est vraiment ici, je pense, qu'on peut espérer avoir un impact réel. Donc voilà, je crois que c'est le sens de ce que tu disais de Save Your Internet. Oui, alors je pense que puisqu'on parle des mobilisations, alors on pourra revenir sur les moyens d'action, hein, on peut quand même signifier, enfin remarquer à quel point elle a été très large, elle a concerné énormément d'acteurs différents, j'en parlais, donc que ce soit au-delà des associations comme peut l'être l'April, c'est-à-dire défense des libertés fondamentales, notamment des libertés en ligne, hein, les académiques, énormément d'entreprises se mobilisent contre ce texte pour tous les risques qu'il fait porter pour un Internet libre et ouvert tout simplement.
Oui, donc c'est pour ça que je me permets d'en rajouter une petite couche, mais il est vraiment important que tout le monde se mobilise le 12 juin. Donc soit à travers effectivement le site dédié qui s'appelle www.saveyourinternet.eu ou encore sur notre site aussi Create Refresh où vous aurez des éléments à partager. On a créé un toolkit pour les réseaux sociaux à destination effectivement des personnes qui ont envie de se mobiliser ce jour-là. Donc c'est www.createrefresh.eu. N'hésitez pas vraiment à nous contacter. Enfin, on est là pour ça. C'est un peu notre dernière chance. Donc allons-y à fond tous ensemble. Mobilisez-vous pour un Internet, enfin pour conserver l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Merci.
Anne-Catherine Laurent, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
Oui, juste l'article 11, je sais qu'on ne va pas en parler en détail, mais pour dire que tout ça, c'est un contexte. Et la négociation de compromis qu'on a sur l'article 13, c'est aussi en considérant les autres articles, et notamment l'article 11, qui est tout aussi sensible. Donc ça dépend de ce qu'on va obtenir là-dessus aussi.
Est-ce que, éventuellement, c'est compliqué, est-ce qu'en une phrase ou deux, tu peux rappeler ce qu'est l'article 11 ?
C'est de créer un nouveau droit exclusif au bénéfice des éditeurs de presse pour l'utilisation en ligne d'extraits ou de liens, peut-être. C'est pas très clair, justement. Donc le lobby des éditeurs a très bien fonctionné.
Donc si je comprends bien, ça vise principalement, je suppose, les moteurs de recherche qui proposent des actualités, mais ça pourrait aussi cibler directement Wikipédia.
Ça peut viser tout le monde, finalement.
Oui,
ou alors la commission ou le rapporteur ne le veut pas, mais dans ce cas-là, l'article ne le dit pas. Donc il faudrait le préciser. Mais on est très, très, très inquiets. Je pense qu'il n'y aura pas de compromis possible, honnêtement. Donc on votera contre, de toute façon.
D'accord. Étienne, tu veux ajouter quelque chose ?
Je pense que l'article 11, comme l'article 13, on voit qu'il s'inscrit finalement dans cette même logique, c'est-à-dire d'avoir d'un côté, mais ce que je parlais vraiment d'une distinction obsolète, hein, d'un côté ceux qui seraient capables de fournir une création pertinente, hein, que ce soit de l'information brute, du traitement de l'information ou de la production culturelle, et d'un autre côté des consommateurs passifs qui vont recevoir ces informations. Justement là où Internet en termes d'outils nous permet de briser ces lignes, de briser ces distinctions, on est tous à la fois consommateurs et producteurs et on peut collaborer et ça à travers le partage et ce qu'on défend à travers le logiciel libre et les licences libres.
Tu voulais ajouter quelque chose, Marc ?
Oui, sur l'article 11, je suis un peu concerné puisque nous on édite un site de presse, mais oui, là encore il y a un grand danger. D'arriver à une solution absolument absurde où finalement ce sont des liens vers des sites de presse qui drainent pourtant du public qui va aller lire, voilà, qui va générer un droit à rémunération pour certaines personnes, des sociétés, enfin, en particulier une société de gestion collective, mais dont les retombées financières pour ceux qui sont derrière le clavier ne seront pas forcément évidentes. Donc les grands gagnants là-dedans, là encore dans ce système-là, ça va être les sociétés de gestion collective et pas forcément les petites mains entre guillemets, sans être péjoratif.
D'accord. Écoutez, j'ai l'impression que c'est très clair. Ce sujet sera forcément réabordé parce que déjà il y a des votes qui arrivent. Hein. Donc en tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir donné ces explications sur l'article 13 en détail et un petit peu plus, moins en détail sur l'article 11. Alors je vous rappelle que donc, toutes les références citées sont sur la page dédiée à l'émission sur le site de l'April, en tout cas si elles n'y sont pas encore, elles vont être rajoutées. Donc il nous reste quelques minutes pour parler un petit peu de l'actualité à venir du monde du logiciel libre et de l'April. Alors, il y a, comme vous le savez, on l'avait expliqué la première émission, tous les jeudis soirs à la Fondation pour le Progrès de l'Homme à Paris, des soirées de contribution au libre. Donc, ils sont ouverts vraiment à toute personne qui souhaite contribuer. C'est pas forcément des gens qui développent. Hein, toutes les contributions sont utiles. Bientôt, il y a le congrès de l'Association des développeurs et utilisateur de logiciels libres dans l'administration et les collectivités territoriales, c'est-à-dire l'ADULACT, parce que de plus en plus de collectivités utilisent du logiciel libre et de plus en plus produisent du logiciel libre. Donc ça aura lieu les 14 et 15 juin 2018 à Montpellier, et je crois que c'est aujourd'hui le dernier jour pour s'inscrire. Alors ce congrès est un lieu d'échange et de rencontre pour toutes les collectivités et établissements publics qui ont choisi la voie du libre, et il y en a de plus en plus. À la fin du mois, il y a deux gros événements qui arrivent. Alors l'un est à Choisy-le-Roi, donc près de Paris dans le Val-de-Marne. C'est Passage en scène. C'est un festival qui aura lieu du 28 juin au 1er juillet 2018 autour des thématiques du logiciel libre, de la protection de la vie privée, de la bidouille informatique et globalement pour favoriser notre propre appropriation autonome par toutes et tous de son informatique. Donc je vous encourage vraiment à y aller. Il n'y a pas besoin d'inscription pour se rendre à ce festival, je crois. Donc c'est Passage en scène. Et le site web, c'est passageenscène.fr, tout attaché. Et le site est évidemment référencé sur la page de l'April. Ensuite à Strasbourg, alors là c'est un peu les vacances pour la communauté du libre, mais c'est aussi des conférences, des ateliers, ce sont les rencontres mondiales du logiciel libre qui se dérouleront donc à Strasbourg du 7 au 12 juillet 2018. Alors j'espère que lors de la prochaine émission d'ailleurs nous aurons quelqu'un de l'organisation pour nous expliquer un petit peu ce que sont ces rencontres. Alors là c'est des rencontres qui sont vraiment ouvertes à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui développent, il y a des personnes qui utilisent, il y a des personnes qui découvrent le logiciel libre. Ça se passe donc effectivement, alors le week-end du 7 et 8, c'est plutôt orienté grand public, c'est directement sur une place de Strasbourg, alors je n'ai pas en tête le nom de la place. Et ensuite, c'est des conférences, des ateliers un peu plus techniques, mais en tout cas, je vous encourage fortement à y aller. Et malgré le terme mondial, ça ne parle pas que anglais, hein, ça parle beaucoup français. Donc rassurez-vous, toute personne est la bienvenue. Alors ça, c'est des événements pour découvrir, pour contribuer, etc. Il y a aussi évidemment les célèbres apéros, parce que c'est important d'échanger autour d'un verre. Donc dans les apéros April, le prochain, il y en a un à Montpellier le 21 juin. Alors, les apéros April à Montpellier, c'est assez simple à s'en souvenir, c'est le troisième jeudi de chaque mois. Bon, donc le prochain, c'est le 21 juin. Et à Paris, donc au local de l'April, c'est le prochain, c'est vendredi 29 juin. Donc là, il n'y a pas une récurrence précise, hein, on fixe la date quelques semaines avant. Donc ça, c'est le 29 juin. Et évidemment, vous allez aussi sur le site de l'Agenda du Libre, sur lequel vous retrouvez tous les événements qui se passent partout en France autour du logiciel libre, et il y a aussi quelques autres pays qui vous permettent de à la fois découvrir le logiciel libre, éventuellement de contribuer. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Agenda du Libre, et je rappellerai d'ailleurs aux structures ou aux personnes qui organisent des événements de soumettre ces événements sur l'Agenda du Libre, parce que c'est quand même l'endroit qui centralise les événements. Vous y trouvez aussi un annuaire des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, c'est-à-dire que si vous voulez découvrir le logiciel libre mais que vous voulez être accompagné, n'hésitez pas à aller sur l'agenda du livre et vous avez un annuaire de référence, vous marquez votre région et vous trouvez l'annuaire. Alors, on va bientôt terminer cette émission, donc déjà je rappelle donc que sur le site de l'April, vous avez une page qui récapitule toutes les références. Assez rapidement, il y aura le podcast en ligne. Comme l'a expliqué au début d'émission Marie-Odile, il y aura assez rapidement, d'ici quelques jours, une transcription de l'émission. Donc n'hésitez pas à aller la lire si effectivement vous voulez, avec le module de lecture rapide comme elle a expliqué. Je voulais remercier en tout cas toutes les personnes qui sont intervenues. Alors déjà Marie-Odile qui nous a quittés, mais en tout cas vraiment je la remercie, et je crois qu'encore une fois toute personne, je crois que Marc, tu as eu l'occasion d'être transcrit par Marie-Odile, c'est un travail vraiment incroyable qu'elle fait, donc je la remercie pour son travail et pour...
Je crois qu'on peut la féliciter, oui, c'est un travail énorme. Je fais ça assez souvent, les retranscriptions d'interviews, et quand je vois ce qu'elle a là-bas, c'est juste extraordinaire. Donc bravo.
Et à titre personnel, je veux faire un grand merci à Marie-Odile qui, est, en plus de son travail de transcription, m'aide énormément par son excellente qualité de travail de relecture lorsqu'on publie des actualités sur notre site. Et c'est un vrai confort d'avoir son aide. Donc, merci beaucoup.
Effectivement, j'avais oublié, c'est une bonne remarque. Marie-Odile effectivement, fait aussi un travail de relecture. Alors j'en profite pour signer... faire un petit message à Agnès Lebéon, qui est aussi une autre relectrice bénévole pour l'April. Je remercie Anne-Catherine Laurin, donc, qui était présente depuis Bruxelles, et je lui souhaite bon courage pour les dernières semaines ou peut-être mois de négociations. Merci Anne-Catherine.
Merci.
Merci également à Léa Chamboncel, donc de Create a Refresh.
Merci beaucoup.
Donc la prochaine émission sera diffusée mardi 3 juillet 2018 de 15h30 à 17h, donc en direct. Nous reviendrons sans doute sur le vote en commission des affaires juridiques concernant la directive droit d'auteur, évidemment, hein, on fera un petit point. Nous parlerons sans doute de l'organisation des premiers samedis à la Cité des Sciences à Paris. Vous savez, chaque premier samedi du mois, il y a des événements autour du logiciel libre avec des conférences et des ateliers. Et on parlera assez longuement des rencontres mondiales du logiciel libre donc, qui se dérouleront à Strasbourg pour essayer de vous convaincre d'y aller. Alors notre émission se termine, donc vous retrouverez sur le site de l'April, april.org, toutes les références utiles. N'hésitez pas évidemment à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Si vous avez des musiques libres que vous voudriez que l'on diffuse, n'hésitez pas aussi. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve le 3 juillet 2018 et d'ici là, portez-vous bien. Et nous allons finir cette émission, excusez-moi, avec Weston de Realas. We'll be right back.
Cause commune, cause-commune.fm.